voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour à tous, bonjour Fernand Guillot.
Bonjour chère Hélène.
Pour cette rubrique « L'auteur caché », vous connaissez maintenant la règle du jeu. Vous devez découvrir de quel auteur il s'agit et rassurez-vous, il compte parmi les grands de la littérature. Je vous donnerai 10 indices biographiques. Fernand Guillot vous lira 10 lignes d'extrait plus quelques petites citations. Et au bout de 10 minutes, et même avant 10 minutes, j'en suis sûre, vous aurez sûrement trouvé l'auteur dont il s'agit. Vous êtes prêts ? Premier indice, cet auteur célèbre naquit à Paris en août 1645. Donc ça vous le situe déjà, au moins pour le siècle. Deuxième indice, son plaisir dans la vie, observer les autres. Et c'est grâce à son sens aigu de l'observation, du comportement, des mœurs, des attitudes des hommes en société qu'il va rédiger son œuvre la plus célèbre. C'est un témoin tantôt tendre, tantôt amusé de la comédie humaine. Troisième indice, on est en pleine querelle des anciens et des modernes. Et lui, notre auteur, se range du côté des classiques. Et dans son discours de réception à l'Académie française, où il est élu en 1693, après deux échecs, il brave les modernes et se range du côté des anciens, dont son ami Bossuet. On progresse, non ? À ce stade, Fernand, si vous nous lisiez un petit extrait, au moins une citation, parce que ce serait peut-être utile.
Quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'ouvrage. Il est bon et fait de main d'ouvrier.
Aujourd'hui, on dirait de main de maître, mais au XVIIe siècle, on en est peut-être là aussi. Aujourd'hui, un bon ouvrier était un bon maître. Bref, voici un quatrième indice pour avancer dans le dévoilement de notre auteur caché. En ouverture de son œuvre la plus célèbre, il commence ainsi.
« Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s'en corriger. »
Bel exemple d'honnêteté intellectuelle, vous en conviendrez. Donc, on vient de comprendre que notre auteur a rédigé des portraits. Et c'est votre cinquième indice, des portraits dans lesquels ses contemporains se reconnaissaient, ce qui lui valut pas mal d'ennemis. Car en vérité, c'est un portrait de la cour et des courtisans qu'il dressait. Alors, sixième indice, il leur donne des noms à ces personnages, des noms à consonance grecque. L'un s'appelle Ménalque, le distrait, l'autre s'appelle Égésippe, le bon à rien, le troisième Philémon, d'autres encore, Mops et Ménippe. Écoutez ce portrait de Ménalque.
Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la referme, il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuit. Et venant à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié. Il voit que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons et que sa chemise est par-dessus ses chausses. S'il marche dans les places, il se sent tout d'un coup rudement frappé à l'estomac ou au visage. Il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu'à se couvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un limon de charrette ou derrière un longuet de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l'a vu une fois heurté du front contre celui d'un aveugle, s'embarrasser dans ses jambes et tomber avec lui, chacun de son côté à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tête pour tête à la rencontre d'un prince et, sur son passage, se reconnaître à peine et n'avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille, il crie, il s'échauffe, il appelle ses valets l'un après l'autre. On lui perd tout, on lui égare tout. Il demande ses gants qu'il a dans ses mains, semblables à cette femme qui prenait le temps de demander son masque lorsqu'elle l'avait sur son visage. Il entre à l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Tous les courtisans regardent et rient. Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée où est celui qui montre ses oreilles et à qui il manque une perruque. S'il va par la ville après avoir fait quelques chemins, il se croit égaré, il s'émeut et il demande où il est à des passants qui lui disent précisément le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d'où il sort précipitamment, croyant qu'il s'est trompé. Il descend du palais, et trouvant au bas du grand degré un carrosse qu'il prend pour le sien, il se met dedans, le cocher touche, et croit ramener son maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, parcourt l'antichambre, la chambre, le cabinet, tout lui est familier, rien ne lui est nouveau. Il s'assied, il se repose, il est chez soi.
Magnifique portrait que celui de Ménalque le discret, n'est-ce pas, Fernand Guillot ?
Ah, très bien. Moi, j'ai lu dans le temps au conservatoire Cliton, je crois, c'était le gourmand.
Le gourmand, on apprend ça au conservatoire, c'est un bon exercice, mais vous auriez pu nous lire aussi Giton le riche d'aujourd'hui ou Phédon le pauvre, honteux. Et notre auteur caché s'explique sur sa manière de faire.
Bien que je les tire souvent de la cour de France et des hommes de ma nation, on ne peut néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité, ne s'écarte du plan que je me suis fait de peindre les hommes en général.
Huitième indice, nous en sommes déjà au huitième indice, alors c'est bientôt fini, vous avez deviné ? Non, pas encore. Alors, encore un petit extrait pour vous aider. Notre auteur, comme Molière, s'attaque aux hypocrites pour dénoncer leurs travers. Il les raille avec une extrême causticité. Et c'est ainsi qu'il s'en prend aux coquettes et surtout aux dévotes, surtout quand elles sont fausses, les dévotes.
La dévotion vient à quelques-uns et surtout aux femmes comme une passion. Ou comme le faible d'un certain âge, ou comme une mode qu'il faut suivre. Elle comptait autrefois une semaine par les jours de jeux, de spectacles, de concerts, de mascarades ou d'un joli sermon. Elles allaient le lundi perdre leur argent chez Ismène, leur mardi leur temps chez Climène et le mercredi leur réputation chez Célibène. Elles savaient, dès la veille, toute la joie qu'elles devraient avoir le jour d'après. Et le lendemain, elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent et de celui qui ne leur pouvait manquer. Elles auraient souhaité les pouvoir rassembler tous en un seul jour. C'était alors leur unique inquiétude et tout le sujet de leur distraction. Et si elles se trouvaient quelquefois à l'opéra, elles y regrettaient la comédie. Autre temps, autre mœurs. Elles outrent l'austérité et la retraite. Elles n'ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés pour voir. Elles ne mettent plus leur sens à aucun usage. Et chose incroyable, elles parlent peu. Elles pensent encore, et assez bien d'elles-mêmes, comme assez mal des autres. Il y a chez elles une émulation de vertu et de réforme qui tient quelque chose de la jalousie. Elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de vie comme elles faisaient dans celui qu'elles viennent de quitter par politique ou par dégoût. Elles se perdaient gaiement par la galanterie, par la bonne chère et par l'oisiveté. Et elles se perdent tristement par la présomption et par l'envie.
Dieu nous garde d'être fausses dévotes. Vous avez compris, notre auteur caché manifeste un talent exceptionnel pour peindre avec un réalisme acerbe et cru des comportements qu'il réprouve et qui déclenchent son indignation. Notre auteur est vraiment le champion de la peinture des mœurs. Alors, dernier indice, le dixième, les œuvres de cet auteur ont obtenu un tel succès qu'elles ont connu de son vivant et après sa mort de nombreuses éditions et rééditions. Allons, les 10 minutes approchent. Nous ne pouvons pas vous faire languir plus longtemps car vous l'avez sûrement deviné. Cet auteur caché, célébré et célèbre pour ses portraits, n'est autre que Jean de la Bruyère, auteur des fameux caractères. Jean de La Bruyère de l'Académie française, élu, on l'a dit, en 1693. Je vous redis ces dates, 1645-1696. Et quand il est mort, toute la cour le regrette, a dit Bossuet. Écoutez pour conclure ce que disait de lui Hippolyte Taine, autre académicien de l'Académie française.
Son talent consiste principalement dans l'art d'attirer l'attention. Il ressemble à un homme qui viendrait arrêter les passants dans la rue, les saisirait au collet, leur ferait oublier leurs affaires et leurs plaisirs, les forcerait à regarder à leurs pieds, à voir ce qu'ils ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir, et ne leur permettrait d'avancer qu'après avoir gravé l'objet d'une manière ineffaçable dans leur mémoire étonnée.
C'est un grand bonheur, Fernand Guillot, de lire la grande littérature.
C'est merveilleux.
À bientôt pour un autre auteur caché à découvrir.